Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez RMC.
Ce qu'on dit peu dans ce genre de cas, et c'était un peu la même chose à l'époque quand le mec était rentré pour tenter un coup de pied sur Payet à Nice. Mais restons sur ce cas très spécifique. Le mec marque un but, se fait bousculer, peu importe la gravité. Et je vais même raisonner par l'absurde en allant vers les crétins qui disent que c'est rien et qu'il fallait continuer le match parce que tout ça n'est pas bien grave. Je me mets à sa place. Je me dis, écoute, moi je mène 1-0 dans un match qui est décisif. Hein. On mène 1-0, moi j'ai marqué, je suis l'avant-centre de l'équipe, j'ai mis un but. Je suis bousculé, je tombe par terre, mais je me relève parce que c'est rien, c'est pas grave. Mais je suis réellement tranquille dans ma tête pour la fin du match. Qu'est-ce qui se passe si je mets un deuxième but? Il y a envahissement, on se fait découper. Qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal pour Bordeaux, qui est en fusion ce soir-là? Il y a un monde de fous, c'est une ambiance de folie. Qu'est-ce qui se passe? Les ultramarines rentrent et déglinguent tout le monde? Comment je peux être persuadé que si je n'ai été que bousculé par Chiquet sur le premier but, sur un deuxième éventuel, est-ce que je suis libéré? Est-ce que, vu que la sécurité m'a montré à quel point elle était défaillante, est-ce que je suis tranquille derrière? Est-ce que je fais mon match tranquillement derrière?
Il y a une accumulation d'événements qui ont fait que maintenant il y a une certaine fébrilité sur ces sujets-là. Il faut dire, et je crois que c'est
un vrai. Vous êtes d'accord avec Souzy sur non,
bien
les
sûr,
effets
bien sûr, bien sûr, bien
est-ce
sûr.
Que le mec joue totalement tranquille non,
après même les coéquipiers. Ce qu'on veut dire, c'est
ah
que.
Oui. Non, non, mais pas que lui. Les coéquipiers, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe alors si on gagne le match au fond?
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, historiquement, même, il y a beaucoup d'études en ce moment sur savoir si la société française est plus violente ou pas.
Je pense qu'on a atteint un niveau de sauvagerie qu'on a rarement atteint, à part au Moyen-Âge, évidemment.
Je pense qu'en matière de football, en tout cas.
Marseille-Ajaccio, c'était pas loin du Moyen-Âge.
Par rapport aux années 90, par rapport à moi, ce que j'ai vu depuis 20, 30 ans, j'ai quand même le sentiment que les tribunes sont moins violentes, mais, c'est pas parce qu'elles sont moins violentes que la violence est plus supportable. Bien au contraire. Elle est d'autant plus insupportable qu'elle est peut-être moins fréquente et moins intense. Ceci étant dit, elle est d'autant plus insupportable que le problème, c'est qu'elle existe encore. On n'est pas sur un cas. Là, je suis d'accord avec toi. Si on rentre dans des considérations à ergoter, savoir si est-ce qu'il a mal, il a pas mal, est-ce que c'est du chiquet, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça a eu lieu. Et que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, il y a un cahier des charges qui n'a pas été respecté et qui aurait pu mener à quelque chose de bien plus grave.
La violence dont tu parles dans les
Juste l'idée c'est quoi? C'est de dire que ce qui se passe là est inacceptable et que ergoter sur ce qui s'est passé là plutôt qu'assumer ses responsabilités, on l'a dit il y a un an sur Nice, on l'a redit sur Charletti, on remet encore le couvert ce soir. Le problème c'est pas en réalité la gravité. La gravité c'est un autre problème, ce sont les conséquences. Mais le vrai problème c'est la cause, d'où ça vient et pourquoi c'est arrivé à ce moment-là.
La violence dont tu parlais, qui a existé années 80, années 90, qui pouvait donner lieu à des batailles entre ultra, voire hooligans, était tout aussi violente. Mais pour moi, elle mettait aux prises des gars tarés qui avaient envie de se friter entre eux. D'ailleurs, ces bastons existent encore. On en parle beaucoup moins, mais ces rendez-vous pour se battre existent encore.
Sur l'autoroute ou sur.
Il y avait à un moment, en tout cas dans le monde ultra, même chez les plus excités qui voulaient se frapper. Il y avait une sorte de code, c'est toujours un petit peu difficile de dire ça, mais une sorte de code. Là, quand je vois qu'on est capable de frapper un môme, d'aller dans une loge, de mettre deux coups de poing à son père, de faire brûler les maillots, ça, les ultras, ou même les hools à l'époque, je suis pas sûr qu'ils faisaient un truc pareil. D'aller frapper un môme comme ça.
Le problème, c'est que
l'envahissement de terrain, comme ça s'est passé à Bordeaux, avec des mecs pas du tout contrôlés, ou comme l'année dernière à Saint-Étienne ou à Nice où le mettre rentre sur la pelouse pour aller foutre un coup de latte à paillettes, ou ça arrivait pas. Ce genre de barbarie, de sauvagerie, c'était pas exactement la même chose. Là, c'est il y a plus de règles à partir du moment, mais c'est comme tu vois dans la société, à une époque on n'imaginait pas qu'on pouvait taper sur un vieux.
Non, mais quand tu
sur une vieille mamie, tout ce genre de faits divers, ce genre de faits divers là sont nouveaux dans notre société. C'est pour ça que je parle de sauvagerie. C'est la sauvagerie, c'est ça. Deux bandes rivales qui se tapent dessus. Pour moi, c'est de la délinquance.
Avant l'existence.
Ils sont débiles et tout. Là, moi, je parle de sauvagerie. Et je rejoins ceux qui parlent. Et Jérôme Fourquet en parlait ce matin chez Apolline de Malherbe. Je parle, quand c'est l'expression en plus un petit peu à la mode en ce moment, la décivilisation. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, ce qu'on voit.
Il faut, pour mettre un peu en perspective, quand tu regardes, pour moi, c'est une crise aussi du mouvement ultra. Parce que la personne qui sort de la tribune pour aller taper un joueur, c'est pas un Wolves, c'est pas un type désocialisé. Mais c'est plus qu'un ultra.
C'est un des chefs
du groupe ultra qui, pendant des jours, pendant des semaines, a chauffé tout le monde à blanc.
Il y a une situation spécifique à Bordeaux, quand même, Thibaut. Hein.
Ouais.
Oui, ben on en a parlé samedi.
Oui, on va l'évoquer.
Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que là, on peut pas dire, parce que souvent c'est un peu la défense des groupes, dire oui, mais c'est un individu isolé, c'est quelqu'un qui a rien à voir avec le groupe, c'est des hooligans, ça a rien à voir avec des ultras.
Là, on voit bien
que c'est un chef ultra lui-même représentatif
d'un groupe. Est-ce qu'il serait passé sous la bâche s'il n'y avait pas une sorte de sentiment d'impunité des ultras à Bordeaux,
bien sûr,
du fait de la proximité? Instrumentalisé par Gérard Lopez.
On parle de quoi là? On parle d'une limite. On parle d'une limite physique et symbolique. Je passe la limite quand je veux. Il y a personne pour m'arrêter. Ce qui est marrant, c'est que les stadiers sur l'image, ils regardent le match. Ils regardent même pas la tribune. Et les mecs le reprennent pour essayer d'aller le cacher.
Ok. Le climat est effectivement très particulier à Bordeaux. Moi, ça fait des semaines. L'année dernière, beaucoup plus. Là, c'est reparti un petit peu que je reçois des messages de supporters de Bordeaux qui ne sont pas du tout en phase avec le mouvement ultramarine, qui a complètement dévié, qui est donc à la solde de Gérard Lopez. Il y a une sorte de connivence entre les deux. Le groupe ultramarine considère qu'ils sont les boss du club, que Lopez est là pour gérer l'oseille, mais que les vrais boss, les fidèles, ceux qui ont le droit de parole, ceux qui sont supérieurs aux autres, sont eux. Sont eux qui se sont autorisés l'année dernière des visites au Hayan, qui ont mis la pression sur des salariés du club.
C'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Il n'y a pas qu'à Bordeaux que ça se passe comme ça.
À Bordeaux, c'est très particulier parce que plus rien ne les a contrôlés.
En fait, à Bordeaux, c'est la complicité avec la direction.
Ce qui s'est passé suite à GACP, à la prise de pouvoir de Longue Épée, qui a donc été chassé, et probablement à juste titre, nous défendions cette position. Longue Épée était quelqu'un qui n'avait rien à faire à Bordeaux, qui a fait beaucoup de mal au club. Mais le basculement de pouvoir qui a été donné par Gérard Lopez à la bande, en gros, de Florian Brunet, qui a ensuite conduit le groupe à vouloir le départ de joueurs, soutenu par le président.
C'est un nom, ça s'appelle le populisme, ça,
oui,
Daniel.
C'est simplement soutenu par le président. Populisme. Genre, mettez la pression sur des joueurs pour qu'ils dégagent, pour alléger la masse salariale. Fausse accusation de racisme, puisqu'il a même été condamné par la justice à l'égard de Koscielny. C'est quelque chose. Je crois pas qu'on ait déjà vu ça dans un club de foot, ce qui s'est passé à Bordeaux. Et
le dernier épisode,
un des membres du bureau directeur de la SOS, restaurateur, chef d'entreprise, qui traverse la France pour aller soutenir son club, qui pense qu'il peut rentrer sur la pelouse dans une soirée où l'excitation est à son comble.
Ouais, section Haute-Savoie.
Voilà. Enfin. Il rentre sur la pelouse et il bouscule un adversaire sans même se dire à ce moment-là que tout un stade, tous les supporters bordelais qui sont en France, s'ils n'habitent pas tous à Bordeaux, cette soirée qu'ils voulaient être une soirée de rêve s'il y avait eu l'exploit des bats de 4-0, 5-0 pendant que Metz battait plus petitement Bastia, pouvait leur donner droit à la Ligue 1. Ils ont ruiné les espoirs de tous les supporters bordelais qui, évidemment, ils ne sont pas amalgamés avec cette bande-là. Mais eux s'en foutent parce qu'au fond, le club, ils le veulent pour eux. Ils veulent entrer au bureau directeur, ils veulent avoir des responsabilités au club.
Disons que tu joues aux apprentis sorciers quand tu joues avec ce genre de.
Et après pub.
Ce genre d'influence politique, politique au sens large, c'est que tu gouvernes en faisant plaisir à la plèbe, l'équivalent de la plèbe, ça s'appelle la définition du populisme. Sauf que là, la différence, c'est que c'est pas des électeurs, c'est des gens qui représentent personne, qui sont une sorte d'avant-garde autoproclamée et qui représentent personne. Donc après, ils ont une fonction, certes, qui existe, mais là, en l'occurrence, sur ce qui se passe là, on voit bien qu'il y a une grosse difficulté pour ces gens-là qui se prennent effectivement, qui ont une espèce de sentiment de toute puissance, c'est qu'ils ont une incapacité à résister à la frustration.
Exactement.
Parce que là, ça se passe parce qu'ils prennent un but alors qu'ils ont eu 5 ou 6 occasions les unes derrière les autres.
Le gars ne contrôle plus rien.
Voilà, et ils ne contrôlent plus rien. Et non,
s'il n'y avait pas eu tous les événements, ni même leur propre
population.
Ils ne seraient pas passés sous la bâche.
S'il y avait un service de sécurité qui n'est pas factice ou à la
sauce. Mais il même pas, là. Sauce, tu vois, il rentre, il sort.
Rien, il sort, il rentre, il fait ce qu'il veut. Les mecs se sentent tout permis.
Voilà, mais si on leur avait pas aussi offert cette position, sans doute.
Mais Gérard Lopez est responsable. Gérard Lopez est totalement responsable de ce qui se passe dans le SAD.